Merci, chers collègues. Je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Alors, Joseph vient de définir la tolérance, on ne va pas revenir dessus. Dans un texte littéraire, moi j'ai choisi La vie devant soi de Romain Gary. Dans un texte littéraire, la tolérance peut se lire au niveau des relations entre les personnages de la société du texte ou au niveau de l'énonciation qui, dans une certaine mesure, n'implique pas seulement les personnages de l'œuvre, mais aussi l'acte qui les crée, ainsi que celui de la lecture. La tolérance de l'écrivain et même du lecteur mérite aussi d'être prise en considération, c'est d'autant plus qu'il est difficile d'ignorer totalement les dimensions argumentatives et didactiques rattachées généralement à un texte comme le roman, notamment le roman à thèse et le roman politique. La vie devant soi de l'écrivain français Romain Gary met en scène une société multiraciale, multiculturelle, multilinguiste, multireligieux d'immigrants en France vers la fin du XXe siècle. Ce texte propose un récit qui brasse plusieurs niveaux dans la description de la vie de ces immigrés. Il s'agit d'un niveau narratif, interprétatif et pragmatique. C'est dans cette superposition protéiforme que nous voulons décrypter les enjeux de l'ironie. Tout à l'heure, on a parlé de l'ironie. Et d'autres stratégies discursives de ces textes sur la tolérance au plan éthique, linguistique et institutionnel. Au plan éthique, le texte de Romain Gary insiste sur les tabous liés au sexe, la prostitution, le proxénétisme, le travestissement sont des tares qui minent cette société et qui sont très condamnés par elle. Ainsi, parler de tolérance sur le plan éthique revient majoritairement à voir comment les interdits liés au sexe sont perçus et énoncés dans l'œuvre. Deux thèmes majeurs s'entrecroisent dans ce roman. On a la prostitution et l'immigration. Les marginaux sexuels, comme on les appelle là-bas, prostituées, proxénètes, travestis, sont des immigrants vivant en France qui ont choisi cette identité sociale pour survivre. Les prostituées sont victimes de l'intolérance de la quasi-totalité de la société du texte. Même Madame Rosa, c'est le personnage principal, une ancienne prostituée qui vit, qui est payée pour la garde des enfants de cette catégorie de personnes, les traite avec beaucoup de mépris et de violence verbale. Je cite un cas. Voici ce qu'elle dit, par exemple. Vos mamans, vous avez la chance de ne pas les connaître. Elle s'adresse à ses enfants parce qu'à votre âge, il y a encore la sensibilité. Et c'est des putains comme c'est pas permis. On croit même rêver des fois. Tu sais ce que c'est qu'une putain? Les paroles de Madame Rosa construisent un contraste entre sa vie passée et ses éventuels choix présents. Nous décelons dans ses propos une forme d'ironie qui décrit son attitude morale et sa dissimulation de la vérité. Madame Rosa dit peut-être le contraire de ce qu'elle pense, mais contrairement à la forme classique de l'ironie, ce qu'elle veut faire comprendre à son jeune interlocuteur n'est pas contraire à ce qu'elle exprime, car ses paroles peuvent avoir une fonction didactique en rapport avec la morale de son pays d'accueil. En réalité, il s'agit beaucoup plus ici d'une relation de contrariété et non d'une relation de contradiction. L'ironie décelée dans le discours de ce personnage devient une comédie dans laquelle le locuteur joue le rôle d'éducateur selon le mode du pays d'accueil. Il peut aussi s'agir de préserver le jeune moment de l'agressivité future liée à l'intolérance sur la prostitution. Cette façon de jouer sur deux voies mêlées, celle de la société et celle du locuteur, donne ce que Daniel Berger appelle la polyphonie ironique dans le vocabulaire de l'analyse littéraire. Madame Rosa répercute un discours social qui ne l'a jamais convaincue. Pour preuve, la tension au début de ce dialogue va baisser au fur et à mesure qu'elle découvre la tolérance de l'adolescent Momo. Je donne une de ses interventions. Après l'intervention de Momo, elle va dire « Je me demande où tu as appris des horaires pareils, mais il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. » Par un jeu lexical qu'il va employer tout au long de son récit, le jeune Momo va déconstruire le tabou du sexe. C'est par l'humour qu'il manifeste sa tolérance face à la prostitution. Le verbe « se défendre » qu'il emploie, qu'il a créé, peut alors traduire non seulement la lutte pour la survie des immigrants de cette société, mais aussi l'arme par laquelle il tourne en dérision les moralisateurs et leur hypocrisie. L'humour dans ce roman exprime la résignation de Momo face à ses origines d'enfant de prostituée, qu'il ne peut plus changer, mais qu'il doit accepter. De même, il va tolérer le proxénétisme de M. Nda Amédée, le Makoero qu'on appelle aussi proxénète, page 33, ou encore celui qu'on appelait Madame Lola, une travestie. Tout se passe comme si Momo faisait une vraie plaidoirie pour ce personnage qui ont choisi de vivre des métiers du sexe. Les prostituées, les travestis, les proxénètes, qui lui jugent comme des êtres ayant plus de qualités humaines que les autres. Il soutient par exemple que les prostituées et Madame Lola, ancien boxeur travesti, peuvent mieux assumer le rôle de maternité. On notera que le système de valeurs proposé par la société ne convainc pas le narrateur, qui tolère ce qui est du registre de contre-valeurs de cette société. L'axiologisation ou disruption des valeurs dans le texte est affirmée. La mise en thèse de cette axiologisation pour interpréter les valeurs se fait par l'ironie qui dessine une position contradictoire avec la morale française alors que l'écrivain est français. Le choix que cet écrivain fait d'élever le tabou du sexe par la voix d'un adolescent, loin de le ranger parmi le grand nombre d'écrivains comme Sade qui ont fait la contestation des valeurs dans leurs œuvres, le positionne plutôt comme un chantre de la tolérance. Il crée un personnage qui parle du cul comme de tout autre organe du corps humain et un vocabulaire pour parler de la prostitution avec aisance. La dimension informative du roman s'enrichit d'une dimension argumentative comme pour ouvrir le débat sur la question des tabous sexuels qui va commencer à se poser avec acuité vers la fin du XXe siècle et davantage au début du XXIe siècle. L'ironie dans ce roman est marquée par plusieurs autres procédés, dont celui de l'hyperbole, comme le démontrent beaucoup de passages. Je vous fais grâce de lire toutes les citations. Momo, c'est le jeune adolescent, le narrateur, rêve parfois d'être un policier, juste pour défendre les putes. Le langage ordurier qui illustre sa liberté d'expression dévoile également la tolérance de l'écrivain face à un type de langue. Momo ne se soucie pas de choquer l'oreille de son interlocuteur. Son lexique tourne autour des mots comme « cul »,« chier » et autres, qu'il emploie dans presque toutes ses interventions. La banalisation du sexe est le premier signe de la tolérance langagière ainsi que la déformation sémantique de certains mots. Momo a aussi l'art de décrire la laideur de Madame Rosa et ses parties intimes avec beaucoup de détails. Je cite un petit cas. Quand elle se penche, elle a un cul encore plus grand que d'habitude. À travers la tolérance liée à la prostitution, ainsi décrite, tout laisse croire que ceux qu'on pourrait désigner comme des marginaux et que le narrateur soutient sont comme lui des immigrants. La question est donc de savoir quelle peut être la distance entre ce qui ressemble à une sorte de solidarité et la tolérance proprement dite. Même s'il est vrai qu'une communauté d'intérêt existe entre Momo et les autres immigrés, l'on voit bien qu'il a des complexes et un sentiment de culpabilité qui le pousse, comme sa marraine Madame Rosa, à s'aligner pour la défense des valeurs morales françaises. La tolérance dans ce cas n'est ni une donnée politique ni religieuse. Il s'agit d'admettre ce qu'on ne peut empêcher, c'est-à-dire voir la vie en face, mieux la vie devant soi, comme l'indique le titre de l'œuvre. L'ironie, l'humour et l'hyperbole sont des figures utilisées pour faire la satire de l'intolérance, pas seulement sur le plan moral, mais aussi sur les plans religieux et culturels. Sur le plan religieux et culturel, la société du texte de Gary est composée d'individus pratiquant quatre types de religions qui correspondent aussi à plusieurs cultures. Ainsi, Madame Rosa est juive, Momo et tous les Arabes sont musulmans. Les Français sont chrétiens et les Africains sont animistes et musulmans. Cette distribution religieuse ne correspond pas toujours à la réalité de la vie sociale de cette époque, située après les indépendances des peuples africains, où on voit que les ressortissants de certains pays qu'il cite dans le texte, à l'instar du Cameroun, sont en majorité des chrétiens. La visée semble de montrer la distance qui sépare les nationaux français et les immigrés. Sur le plan religieux, Madame Rosa est celle qui a le plus souffert de l'intolérance du fait de son identité juive. Le paysage juif créé par ce personnage se trouve dans la cave de son immeuble qui devient une sécurité contre l'antisémitisme. Il est difficile de trouver dans des cas de tolérance religieuse dans cette œuvre. Même Momo, qui est le personnage le plus tolérant, est sévère face à la religion des Africains. Il donne l'impression de ne tolérer les Juifs que parce que Madame Rosa, sa marraine, est juive. Moi, je crois que les Juifs sont des gens comme les autres, mais il ne faut pas leur en vouloir. Lorsque Momo décrit la scène pendant laquelle les Africains ont organisé un rite religieux pour guérir Madame Rosa, il le fait sur un ton de raillerie pour montrer l'inefficacité de leur pratique. La tolérance religieuse va aussi de pair dans cette œuvre avec le racisme, qui est un manque de tolérance très violent. Les Noirs qui vivent dans la ville de Belleville sont reconnus comme étant des victimes du racisme, que ce soit dans l'histoire ou pendant leur séjour dans cette ville. Voici ce que Momo en dit. « Je ne vais pas refaire ici l'histoire, mais les Noirs ont beaucoup souffert et il faut le comprendre quand on peut. Le racisme a été terrible pour eux là-bas jusqu'à ce qu'il y ait eu la révolution et qu'ils ont eu un régime et ont cessé de souffrir. Enfin, les Noirs doivent avoir bien d'autres défauts. » La nature de cette énonciation dans laquelle le personnage interrompt son récit pour donner un jugement de valeur accentue l'absence de tolérance vis-à-vis des Noirs. Momo donne trop souvent crédit aux rumeurs qui collent des préjugés aux Noirs. Il dit par exemple, « C'est pas vrai que les Noirs mangent les enfants dans leur pain. C'est des rumeurs d'Orléans, tout ça. » Mais j'avais toujours l'impression que je lui donnais de l'appétit. Et ils ont quand même été cannibaux en Afrique. On ne peut pas leur enlever ça. On note donc des marques de subjectivité dans cet énoncé qui indiquent une connivence entre un discours insituable, c'est-à-dire la rumeur, parce que sans émetteur identifiable, et celui qui rapporte ce discours, le narrateur. Cette connivence est impliquée par ce que Dominique Menguenot appelle des noms de qualité. Et dans le texte, Momo va utiliser deux noms de qualité et qui marquent cette subjectivité. J'ai l'impression que l'impression est l'appétit. Mais nous voyons que l'humour du jeune Momo est très proche de l'ironie. En d'autres termes, il peut avoir contradiction entre ses affirmations verbales et ce qu'il pense réellement. Le sujet du racisme est loin d'être plaisant. Il s'agit donc d'une ironie amère qui dénonce l'injustice de la ségrégation raciale dont sont victimes les Noirs dans le monde. La tolérance qu'on pourrait lire dans ce roman est imposée par le contexte du vivre ensemble. Les histoires individuelles des personnages se ressemblent par leur caractère clandestin. Les personnages évoluent tous comme s'ils vivaient dans la clandestinité, avec la peur soit d'être dénoncés, soit d'être découverts par la police ou le service social. Ils sont contraints d'afficher une tolérance apparente. Madame Rosa pourrait être présentée comme un modèle de tolérance parce qu'elle élève des enfants d'origine et de spiritualité diverses sans qu'il y ait être dans leur cohabitation. Mais Momo précise qu'il ne pouvait pas avoir de soucis chez sa tutrice grâce au mandat qu'elle attendait chaque fin de mois. Le vivre ensemble impose des négociations psychologiques qui amènent les individus à se faire violence. Ainsi, la visée idéologique de cette œuvre ne peut pas se lire à partir du personnage central qu'est Madame Rosa. Cette visée doit plutôt se faire découvrir à travers la posture et les interventions du narrateur Momo, à la fois comme sujet parlant et comme locuteur. Oswald Ducrot distingue le sujet parlant du locuteur. Selon lui, le premier joue le rôle de producteur de l'énoncé d'un individu ou des individus, tandis que le second est l'instance qui en prend la responsabilité. Il s'agit en fait de la distinction que nous avons faite plus haut entre le récit et le discours, lorsque le narrateur intervient au cours de son récit avec des commentaires ou des jugements de valeur. Dans ce dernier cas, il prend personnellement la responsabilité de ce qu'il dit. Lorsqu'il est sujet parlant, Momo devient comme l'auteur du roman, l'homme de son époque qui dénonce par l'ironie les travers de cette époque. La distinction faite entre sujet parlant et locuteur ou énonciateur ne suffit pas ici à situer l'auteur du texte, car il faut bien distinguer l'homme roman Cassev, doué d'état civil, de l'écrivain romain Gary, un être qui se mue dans l'institution littéraire, qui y dévoile une certaine trajectoire et se réclame un positionnement esthétique. La pseudonymie est alors révélatrice de cette différence entre l'homme et l'écrivain. En signant par un pseudonyme, l'écrivain a construit un code à côté du je biographique qui n'existe que dans et par l'institution littéraire. Nous avons alors affaire ici à une société symboliquement institutionnelle. Depuis la mort de Gary, ces deux pseudonymes, à savoir Émile Ajar et Romain Gary, figurent sur son œuvre. La philosophie du camouflage, du contraste ou, si l'on préfère, de la rhétorique de l'ironie, transparaît déjà dans cette option de l'auteur et de ses prises de position institutionnelles. Bref, pour mieux voir la crédibilité du prix Goncourt, Gary viole les règles par le subterfuge du pseudonyme, remettant ainsi en question les règles institutionnelles de ce prix littéraire. Il avait reçu deux prix Goncourt. Ce subterfuge, qui éprouve en quelque sorte la critique, engage les questions d'objectivité et de subjectivité de la critique. En d'autres termes, les traces d'appartenance sociale que draine le nom d'auteur peuvent-elles influencer l'évaluation d'une œuvre? Mieux, la réception d'une œuvre peut-elle avoir des marques d'intolérance? Romain Gary, de son vrai nom Roman Cassav, a souffert de sa double identité juive et suisse. Lorsqu'après plusieurs tentatives, sa demande est acceptée comme secrétaire à Athènes, Christian Cara de Vaux-Saint-Cyr, ambassadeur de France à l'époque, va considérer cette nomination comme étant inopportune, car, dit-il, un nom slave à l'ambassade de France serait très mal vu dans ce pays. La réticence de Gary suite à l'inscription « juif » faite sur son acte de naissance par sa mère est aussi révélatrice. Je cite « À présent, ça me colle à la peau, c'est surtout mes papiers, plus moyen de m'en débarrasser. » Donc, le pseudonyme Romain Gary a une consonance française. Avec tous ces pseudonymes, Romain Gary change d'identité comme le fait la vieille juive de son œuvre, Madame Rosa, qui a une malle remplie de faux actes de ses pensionnaires et d'elle-même. Il ne s'agit pas d'un acte de malhonnêteté pour fuir la police, mieux pour se soustraire à la loi, mais cette attitude doit se lire symboliquement comme une révolte contre l'intolérance, contre l'exclusion de certains êtres dans la société. Après ces multiples prix littéraires, les origines de Gary ont été connues et la jalousie liée au fait de voir un juif voler de succès en succès l'aurait contraint à persister dans ses renaissances identitaires. Le monde donc mérite d'être corrigé, d'après ce qu'il veut nous montrer, et il n'y a que l'art, la littérature, pour établir cette sorte de justice. En conclusion, l'énonciation de la tolérance est la traduction d'une forme d'humanisme, une invitation à regarder l'autre avec réalisme, ne serait-ce que pour notre propre sérénité. Il s'agit aussi de protéger certaines couches vulnérables, dont celle des enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le contexte de l'immigration accentue parfois la distance entre les nationaux et les autres. La tolérance chez ces derniers, tel qu'on le voit dans l'œuvre, est alors une forme de solidarité pour se maintenir. La littérature essaye de traduire des choses sérieuses sans demander à être prise complètement au sérieux. Elle permet de vivre la tolérance de plusieurs manières sans la vivre réellement. Je vous remercie.